Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polothèque.
Et préparée par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Brigitte Chevet pour son documentaire « L'espionne au tableau » réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui sera diffusé le lundi 4 mai prochain à 0h45 sur France 3. Alors votre documentaire revient sur la vie de Rose Valland, cette conservatrice résistante qui a tout au long de la guerre, alors qu'elle était attachée de conservation au jeu de paume, là où les Allemands stockaient les œuvres d'art volées aux Juifs, elle a consigné méticuleusement toutes les œuvres d'art pillées par les Allemands, depuis leurs propriétaires jusqu'à la destination de ces œuvres, puisqu'on le sait, plus de 100 000 œuvres ont quitté la France pour l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, Rose de Valland s'est attachée à retrouver ses œuvres et à les rendre à leurs propriétaires. Mais votre documentaire a la spécificité de dévoiler de manière ample la biographie de cette femme, Rose Valland, dont on connaît bien sûr l'activité pendant la guerre. Mais là, vous allez vous montrer également son acharnement jusqu'à sa mort à tenter de restituer les biens spoliés à leurs propriétaires légitimes. C'est justement ce jusque-boutisme, cet acharnement qui vous a séduit chez Rose Valland, qui vous a poussé à faire ce film ?
Oui, alors c'est vrai qu'en fait, Rose Valland, c'est quelqu'un d'extrêmement romanesque. Hein. Raconter son histoire, c'est formidable justement pour initier le grand public, non seulement à cette histoire de spoliation, qui est déjà assez compliquée en soi, parce qu'elle a eu de multiples canaux, on va dire. Et derrière la récupération, dont elle a été l'héroïne incontestable, parce qu'elle est partie 8 ans en Allemagne, 8 années d'acharnement à récupérer tous les tableaux qu'elle avait vus passer au jeu de paume et les autres, hein, parce qu'il n'y a qu'un quart des spoliations artistiques qui sont passées au jeu de paume. Et dans une troisième période, et là c'est plus tard, dans les années 60, elle est la première à prendre conscience qu'il faut absolument continuer à rechercher les familles avant même que, d'ailleurs, la communauté juive dans son ensemble se saisisse de la question, donc peut-être avec 20-30 ans d'avance. Voilà, donc, et elle a un destin extrêmement étrange, romanesque, et c'est vrai que suivre les pas de Rose Valland, c'est peut-être rendre accessible cette histoire qui est tout de même assez compliquée.
Sinon. Assez complexe, oui.
Oui.
Ce que vous montrez également, c'est qu'au tout début de sa vie, rien ne prédestine Rose Valland à devenir cette espionne, cette résistante reconnue, qui a d'ailleurs été portée 2 fois à l'écran aux États-Unis.
Oui, c'est vrai que c'est une fille de forgeron, née dans un petit village de l'Isère, donc elle vient d'un milieu extrêmement modeste. Et elle est une fille unique, mais il se trouve qu'elle est assez brillante, très brillante même, puisqu'elle est première de son département à décrocher une bourse pour aller au lycée. Et qu'ensuite, d'étape en étape, comme elle est passionnée de dessin et d'art, elle fait non seulement l'école normale d'institutrice à Grenoble, mais elle part à Lyon aux Beaux-Arts. Ensuite, elle monte à Paris faire l'école du Louvre. Enfin, c'est une ascension incroyable pour son époque. Et elle est née au tournant du siècle. Hein. Donc tout ça, ses études, ça se passe entre les deux guerres. Elle n'a pas d'argent, mais elle est passionnée. Donc elle vit de petits boulots. Et de fil en aiguille, là, à la veille de la guerre, elle a fait sa petite place, mais comme bénévole, hein, attention. Hein. Elle n'est pas du tout salariée. Au musée du jeu de paume, où un jour, elle voit arriver les nazis avec des caisses et des caisses et des caisses de tableaux, la collection Rothschild en particulier.
Dès la défaite française, dès juin 40
Non, en fait, c'est réquisitionné en novembre. Les spoliations commencent, je crois, courant juillet, dans l'été. Au début, donc c'est l'ERR, Eisenstab Reichsleiter Rosenberg, qui veut dire en fait le commando Rosenberg, hein, du nom de Alfred Rosenberg, qui était l'idéologue antisémite, a fondé ce commando, une 20aine d'hommes en tout, qui se sert des Français pour aller vider les appartements des grands collectionneurs juifs et des galeristes. Tout était déjà préparé, ça commence dans l'été, et les tableaux sont envoyés au Louvre. Et puis, la place vient à manquer. Donc, c'est là qu'ils réquisitionnent le musée du jeu de paume. Et c'est là que Rose Valland, par le plus grand des hasards, entre dans cette histoire. Et non, c'est quelqu'un de tout à fait ordinaire. Enfin, ordinaire dans le sens où elle n'est pas engagée politiquement. Elle n'a pas du tout conscience de ce qui se passe au début. C'est juste une passionnée d'art. Et je crois qu'elle met quand même un peu de temps à réaliser l'ampleur de ce qui se passe. C'était tellement inimaginable. Mais à partir de 41, elle commence à prendre des notes en cachette pour garder une trace de toutes ces merveilles qu'elle voit passer et qui partent en Allemagne.
De ces merveilles et aussi, parce que c'est ça le côté un peu, on va dire, de votre film. Enfin, il y a un peu conçu comme un cluedo avec de nombreuses images d'archives, des interviews d'historiens, mais aussi un décor où s'animent des pions qui figurent les acteurs principaux de cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Il y a Göring notamment, il y a Bruno Lons.
Il y a trois méchants dans mon histoire, c'est assez manichéen, j'avoue, mais c'est vrai qu'ils faisaient bien les méchants quand même, les nazis. En premier lieu, il y avait donc le commandant de l'ERR à Paris, qui s'appelait Von Baer, qui était un espèce d'aristocrate pas très cultivé, voilà, et qui dirigeait les opérations. Mais très vite, c'est Göring qui s'invite au musée du Jeu de Paume. Et lui, il est obsédé par l'art, au même titre que Hitler, d'ailleurs. Son but, c'est d'avoir la plus grande collection privée d'Europe. Et donc, il voit au Jeu de Paume l'occasion de bien garnir cette collection. Donc, il viendra se servir en tableau, sans limite. Il vient une vingtaine de fois. En 4 ans d'occupation, c'est quand même le bras droit et le responsable de la Luftwaffe. On peut dire en pleine guerre, il a autre chose à faire. Et ben non, il viendra 20 fois à Paris avec son train spécial prendre des œuvres au musée du Jeu de Paume. Et Rose Vallant observe, note. Voilà. Et le troisième larron de l'histoire, c'est Bruno Loseux, un historien de l'art, hein, spécialiste du XVIIe hollandais, qui lui va devenir l'homme de confiance de Göring et qui va d'ailleurs doubler Von Baer et qui lui aussi va trafiquer gentiment très bien s'en sortir d'ailleurs à la libération.
Ah oui. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire les œuvres classiques valent plus aux yeux de Göring que les œuvres modernes, c'est bien ça. Donc Bruno Lose fait, c'est de cet ordre-là ce trafic, il échange des œuvres modernes contre des...
Oui, parce que les nazis avaient des goûts très restrictifs, hein. Ils voulaient surtout du classique, du hollandais, enfin tout ce qui était œuvre d'art, on va dire, arienne. Et tout ce qui était moderne, il le qualifiait de dégénéré. Donc il ne voulait pas le voir. Par contre, il savait très bien que ça valait de l'argent. Ce que je n'ai pas dit dans le film, parce qu'on ne peut pas tout dire dans un documentaire, mais c'est qu'ils en ont aussi brûlé quelques-uns des tableaux.
Ah oui.
Oui, d'œuvres. Apparemment, Rose Vallant en parle à un moment, mais bon, ce n'est pas très documenté tout ça. Il n'y a pas beaucoup de témoignages, mais ils en ont surtout échangé en fait.
Quels vont être les relais à cette époque? À qui elle confie justement ces informations qu'elle consigne? Puisqu'elle n'est dans aucun réseau au départ.
Elle est juste, on va dire, seule dans le musée. En fait, elle est chargée un peu de l'intendance. Et son responsable est parti. D'abord, il est parti au front. Ensuite, il est parti en Bretagne faire de la résistance. Enfin, bref, du coup, elle se retrouve toute seule à gérer les emballeurs, les gardiens, la maintenance, le chauffage au Jeu de Paume. Et donc, elle va rendre compte de tout ce qui s'y passe à son supérieur hiérarchique, qui est le directeur des musées du Louvre, à l'époque, qui s'appelle Jacques Jaujard, et qui, lui, est un authentique résistant. Et ils n'étaient pas tous résistants dans le monde de l'art, mais lui, oui. Et donc, elle va lui rendre compte, elle va lui faire des rapports écrits. Et tous ces rapports écrits, on les a gardés. Ils sont aux archives des musées. Et voilà, c'est vraiment des renseignements importants pour comprendre ce qui s'est passé là-bas.
Et pourtant, à la libération, c'est vers les Américains qu'elle va se tourner. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément aller vers sa hiérarchie pour tenter de sauver ses œuvres qui ont été stockées dans les dépôts, en Allemagne notamment. Elle va directement voir les Américains.
Elle se méfiait sans doute de la hiérarchie française qu'elle trouvait trop lente. Et c'est vrai que sa position lui a permis très rapidement de savoir où étaient les dépôts secrets, ce qui était quand même un exploit, parce que même...
En Allemagne, vous voulez dire ou
en Allemagne, oui, là où on entreposait les œuvres, soit pour le futur musée de Hitler, soit en transition pour d'autres musées ou pour Göring. Donc il y avait des dépôts secrets, et elle les connaissait. Et quand elle a vu les Américains arriver... Elle a lié une amitié professionnelle avec un Américain qui s'appelle James Rorimer, qui était un des Monuments Men arrivé avec le débarquement. Et elle lui a fait confiance parce que c'était quelqu'un de son métier et qui elle se reconnaissait. Et donc, elle s'est dit que comme les Américains étaient quand même la tête de pont de la libération de l'Allemagne, il fallait qu'elle donne ces informations à ceux qui arriveraient en premier sur les lieux. Et je crois qu'elle a eu raison de le faire. Ouais.
Et c'est là une nouvelle vie pour elle, puisqu'elle va partir en Allemagne, au sein de la première armée du général de la de Tassigny, où elle est nommée capitaine Beaux-Arts, c'est bien ça ?
Là, c'est la transformation, parce que jusqu'alors, Rose Vallant était quelqu'un, on le voit sur les photos, on n'a pas de film d'elle, hein, on n'a que des photos. Et on voit sur les photos, elle est dans cette période de musée, elle est très discrète, elle est très effacée, elle a des lunettes rondes, elle se cache derrière, elle a un châle, enfin elle est tout sauf sexy, on va dire. Et puis d'un coup, elle se transforme en espèce de Matahari. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, elle s'est dit action, quoi. Donc elle enfile son uniforme, qu'elle se taille dans un uniforme d'homme d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'uniformes pour les femmes à l'époque. Et donc, je ne sais pas, elle réussit à persuader. Enfin, elle n'a pas expliqué exactement comment ça s'est passé, parce qu'elle a écrit que sur ses années d'occupation. Après, on manque de documentation et de témoignages. C'est vraiment dommage. Mais moi, j'aurais bien aimé savoir comment elle a persuadé les Français de partir. Mais sur les photos, on la voit mais se transformer à une vitesse incroyable. Elle devient souriante. Là, on a l'impression qu'elle s'éclate, elle est dans l'action et qu'elle se révèle à elle-même. Voilà.
Et elle va passer, du coup, les 8 années qui suivent la guerre en Allemagne, 8 années au cours desquelles elle va tout faire pour rapatrier donc, les œuvres volées, les œuvres qu'elle avait... consignée.
Là, elle devient un petit peu l'âme de cette action de récupération des œuvres d'art en Allemagne, qui était à la base pas tellement une priorité hein, des armées. Il y avait plus urgent à faire, et c'était la première fois que dans l'histoire de l'humanité il y avait des œuvres d'art en telle quantité à retrier, récupérer. Mais elle avait vraiment une longueur d'avance, parce qu'elle les a vues passer pendant 4 ans. Donc elle les avait notées, donc elle savait ce qui venait de France. Elle avait quand même une formation très solide en histoire de l'art. Et donc, il n'y avait pas mieux qu'elle, en fait, côté français, pour faire ce travail. Et apparemment, elle avait l'oreille de tous les alliés, enfin, vraiment, et elle a débordé d'activité, vraiment. J'ai eu l'occasion de passer un peu de temps aux archives. J'ai pas fait le travail d'historienne moi-même, mais c'est impressionnant, quoi. Le nombre de rapports qu'elle a écrits pendant ces 8 années. Et c'est passionnant à lire. C'est on dirait un polar, quoi. Parce que des fois, elle se met sur la trace d'un soi-disant tunnel contenant un trésor nazi. Enfin, elle cherche des tas de trucs, quoi. Bon, elle en trouve un peu. Elle retourne... en zone russe, malgré les difficultés.
Voilà, et peut-être même qu'elle aurait joué les espionnes dans la zone d'occupation soviétique.
Oui, elle a fait ça.
C'est ça, parce que la maison de Göring est située donc sur le territoire qui est allemand, mais qui est zone d'occupation soviétique.
Ouais.
Et du coup, à cette occasion...
Elle savait qu'il y avait beaucoup d'œuvres là-bas. Certaines étaient parties quand même en train. Un train qui a été récupéré à Berchtesgaden, dont on a les images, c'est très impressionnant. Et puis, elle est allée plusieurs fois, 4 fois, je crois, dans cette ancienne propriété qui était en zone russe. Donc, elle a quand même récupéré des choses, dont un plafond peint là, qui vient d'être mis au Louvre il n'y a pas très longtemps. Et puis,
Parce que les soviétiques, eux, considéraient que ces œuvres d'art, en fait, étaient un trésor de guerre. Pour eux. Il n'y avait pas la même politique qu'à l'Ouest, c'est ça?
Non,
si
pas,
j'ai bien
pas tellement. Non. Eux, ils avaient eu beaucoup de morts et puis ils ne voulaient pas faire de détails. Ils pensaient que voilà, bah, les œuvres d'art qu'ils trouvaient, bah, ils allaient les garder, quoi. Et alors, il y a des tas d'anecdotes que je n'ai pas pu mettre dans le film. Mais par exemple, à un moment, dans l'ancien atelier d'Arno Breker, qui était le sculpteur du Reich, elle retrouve des Rodins, quand même, de grandes sculptures de Rodins. Et elle se dit, mais ça appartient à la France. Même si Arno Breker les avait achetés légalement, lui. Mais bon, elle s'est dit, bon, on va quand même les récupérer. Et puis, et donc, elle fait la demande officielle aux Russes, qui se rendent compte que du coup, bah, ils avaient des statues super là, sur leur territoire. Et le lendemain, comme par hasard, les statues avaient disparu. Voilà. Donc ça, c'était la méthode russe de ne pas trop faire de détails. Et ils n'étaient pas du tout en collaboration avec les Américains, les Anglais et les Français, qui, eux, avaient installé des collecting points dans plusieurs endroits en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils rassemblaient les œuvres. Il les triait, il faisait un relevé de tout ce qu'il y avait, et quand il retrouvait trace, il renvoyait vers le pays d'origine.
Et elle a été négociée donc âprement, apparemment, avec ces soviétiques. Non, mais ça témoigne quand même d'un certain courage de part. C'est la guerre froide qui commence.
Elle a un courage physique incroyable. Il y a des lions. En marbre rose vénitien qu'elle a retrouvé quand même, qui ornait l'entrée de la propriété de Göring. Et quand elle les a vus, elle s'est dit, alors ça, c'est une prise de guerre. Et elle les a planqués dans des camions de gravats pour les rapatrier clandestinement en France. Et elle se déguisait avec un vieux fichu. Enfin, elle faisait un peu ça... Sa paysanne, enfin on n'a pas de photo de ça, mais apparemment elle a fait des choses pas possibles. Elle allait négocier les canons des Invalides, les canons qui sont exposés aujourd'hui aux Invalides et qui accueillent tous les visiteurs à l'entrée, bah, c'est elle qui les a ramenés. Et elle allait les négocier à coups de bouteille de cognac dans les fonderies côté russe. Voilà.
Alors en 1953, c'est le retour à Paris, c'est, on va dire, elle meurt beaucoup plus tard, hein, en 1980, mais on va dire que c'est un peu la dernière partie de sa vie. Le retour apparemment est difficile, elle est décorée, elle est reconnue de manière internationale pour ses activités de résistante, et pourtant elle a du mal à se faire une place dans le milieu très masculin des conservateurs d'art, et puis manifestement son obsession, sa détermination à retrouver des œuvres d'art spoliées n'intéresse plus grand monde en 1953 à Paris.
Non, ça c'est vrai, on peut pas le dire, parce que ben il y avait sans doute d'autres urgences, hein. Et puis il y avait la paix à reconstruire. On parlait pas tellement des biens spécifiquement spoliés aux Juifs. Elle n'avait pas un statut très établi aussi dans ce milieu-là de la conservation. Elle était une femme. À l'époque, il y avait très peu de conservatrices. Ça a dû être la deuxième en France. Donc, pour qu'elle obtienne un poste de conservatrice, ça a été la croix et la bannière pour elle. Elle n'était pas d'un milieu, on va dire, qui correspondait aux standards de l'époque, parce que c'était plutôt des milieux, on va dire, aristocrates, bien nés. Elle venait d'une petite ville de province, fille de forgeron. Enfin, elle n'avait rien pour elle. Et donc, c'est vrai que... Et puis, il y a eu des histoires de... Elle n'est pas très claire, parce que... Quand il y a beaucoup d'œuvres d'art comme ça qui circulent, hein, évidemment, il y a des tentations. Hein. Au sein de la commission de récupération artistique, il y a eu des affaires. Il y a eu des gens jugés après la libération. Elle savait beaucoup de choses. Ce qu'elle savait exactement, elle n'a jamais vraiment parlé de ça. Elle savait des choses. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Elle dérangeait des gens. Après, c'est vrai qu'il y a eu toutes ces œuvres d'art qui ont été ramenées en France et qui n'ont pas trouvé de propriétaire. Donc ça, c'est plus, on va dire, ce qu'on appelle les MNR. En gros, c'est Musées Nationaux Récupération. C'est toutes les œuvres Qui sont revenues parce qu'on sait qu'elles venaient de France, mais quand elles sont revenues, les propriétaires n'étaient plus là, parce qu'ils sont restés dans les camps en grande majorité. Et ces œuvres-là, elles ont eu un destin un petit peu flou, on va dire. Hein. La plupart ont été vendues très rapidement, trop rapidement peut-être, sans traces. Et les plus belles pièces sont restées dans les musées, de manière, on va dire, assez discrète. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité faite sur la présence de ces œuvres-là. Alors, elle, est-ce qu'elle a essayé, dès ces années-là, de retrouver des familles? Je ne crois pas. Je crois que ça s'est fait un peu plus tard.
À partir de 1969, c'est ça, quand elle prend sa retraite, c'est là qu'elle va, jusqu'à sa mort, donc, tenter de retrouver les héritiers. À partir à partir des carnets qu'elle a consignés pendant la guerre, elle fait ce travail ou...
Pas seulement, hein, c'est aussi toutes les archives qu'elle a ramenées d'Allemagne, les archives de l'ERR qu'elle a récupérées, dont elle a obtenu des copies auprès des Américains. Enfin, avec les années, elle avait constitué un fonds d'archives gigantesque, plus des répertoires à noter, enfin des milliers de choses. Et c'était la femme, on va dire, qui en savait le plus sur cette histoire. Mais c'est une histoire qui n'intéressait plus personne. Donc on lui a laissé un petit bureau au Louvre, comme ça, et on lui a laissé gérer l'affaire, plus ou moins, mais sans vraiment s'intéresser, et en lui expliquant à demi-mot que, bon, allez, la guerre, c'est fini quand même. Et donc, on la prenait un petit peu pour une obsédée, quoi. On ne voyait pas le côté juste de son combat, finalement. On le voit que maintenant, c'est ça qui est fou.
Qu'est-ce qui explique cette détermination, à votre avis?
Tout n'est pas forcément clair. Comme je vous disais, elle n'a pas laissé de mémoire sur cette partie-là de sa vie. C'est très dommage, parce qu'il y a plein de morceaux qui nous manquent, quoi. On aimerait en savoir beaucoup plus sur les rapports de force au sein des musées à l'époque, sur ce qui se disait réellement, sur ce qu'elle savait. Je crois qu'elle a été beaucoup sollicitée par les familles à partir de ces années 60, parce que la conscience revenait à la surface, qu'il manquait des objets, qu'on voulait les retrouver. Et qu'est-ce qu'elle a pu faire? Il paraît qu'elle aurait dit à un moment « je restitue, mais pas aux Français ». C'est-à-dire qu'en France en particulier, il y avait des blocages. Mais bon, ça c'est des on-dit, vous voyez, on manque vraiment de choses concrètes pour affirmer tout ça.
En quelques mots, juste pour finir, quelle est la situation aujourd'hui dans les musées nationaux, au-delà du site dédié aux œuvres non restituées, qui s'appelle justement le site Rose-Vallant.
Il y a eu une prise de conscience, on va dire, au moment de la mission Matteoli, fin des années 90. Il y a eu aussi un livre qui est sorti d'Hector Feliciano sur les musées disparus. Enfin, beaucoup d'événements concomitants dans les années 90 qui ont fait qu'il y a eu une prise de conscience et un premier mouvement de restitution dans ces années-là. Parce qu'il faut dire qu'en 40 ans, il n'y a eu que 6 tableaux redonnés par les musées d'État en France. C'est quand même pas beaucoup sur 2000 œuvres. Donc ça a repris dans les années 90. Ça s'est un peu essoufflé. Et puis là, ça reprend à nouveau, notamment sous l'action de la sénatrice Corinne Bouchoux, qui a beaucoup fait pour ça. Et puis des éléments plus médiatiques. Le film de George Clooney, Monuments Men, je ne sais pas si on a 2 minutes pour en parler de ce film. Non, on n'a pas 2 minutes. Bon, c'est dommage. Enfin, toujours est-il qu'il y a eu une reprise de la restitution. Mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de moyens aussi pour la mener aujourd'hui. Donc voilà, c'est encore un peu mitigé. Mais on se focalise beaucoup médiatiquement sur les musées d'État, c'est vrai, qui ont des pièces à redonner. Mais il faut quand même me rappeler qu'il y a 40 000 œuvres qui ne sont jamais rentrées et on ne sait pas où elles sont. Voilà, donc elles sont en train de ressurgir. Souvenez-vous de l'affaire Gurlitt. Donc, on n'a pas fini avec cette histoire.
Je vous remercie beaucoup d'être venue, Brigitte Chevet. Je rappelle que votre documentaire « L'espionne au tableau », réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sera diffusé le lundi 4 mai prochain. à 0h45 sur France 3. Je signale aussi que le livre de Rose Vallant, Le Front de l'Art, publié pour la première fois en 1961, a été réédité l'année dernière par la Réunion des musées nationaux sous la direction d'Isabelle Lemann de Charmont et Didier Schulman. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.